Et c'est le moment pour cette chronique Histoire et grand nom de la médecine avec Christiane Campagna qui souligne ou nous rappelle de souligner un grand anniversaire pour demain.
Ben oui, demain, c'est le 17 mai et donc c'est le 374e anniversaire de Montréal. Nous entreprenons donc la 375e année puisque l'emplacement de Ville-Marie a été fondé le 17 mai 1642.
Mm-hmm. Et en même temps, on se rappelle qu'on... Parce que ça, on en entend beaucoup parler de ces festivités du 375e anniversaire. Donc, on se dit, ben c'est prêt et ça s'en vient là, assez rapidement.
Et oui, et il y a un lien entre la cofondatrice de Montréal et la santé, puisque elle, son principal but en arrivant ici était de fonder un hôpital. Alors, hôpital qui fait l'actualité aussi ces temps-ci, là, on le verra vers la fin, mais l'avenir du bâtiment actuel de l'hôpital fait l'objet de débat.
Donc, cette femme, c'est Jeanne Mance,
voilà.
Qui est cofondatrice donc, de Montréal et autant de l'Hôtel Dieu. Elle nous naît de la Nouvelle-France, Jeanne Mance.
Elle vient de la France,
la
en
France,
fait.
Oui, c'est ça, pour, bien sûr, venir ici travailler en Nouvelle-France, évidemment.
Exactement. Elle est née en 1606 en Champagne, soit 2 ans avant la fondation de Québec, pour se situer. Là. Et c'est dans sa région natale qu'elle aurait développé ses talents d'infirmière. Elle aurait, pendant la guerre de 30 ans, qui faisait des ravages là-bas à l'époque, elle aurait aidé des organismes charitables de la région et c'est là qu'elle aurait appris à soigner les malades. C'est une femme qui ne ressent pas l'appel du mariage, mais plutôt l'appel de la mission, bien qu'elle ne semble pas... Elle n'a jamais prononcé de vœux. Elle a fait...
Ben, demeurait laïque.
Certains textes parlent d'un vœu de chasteté quand elle était enfant, là, mais elle n'a pas fait de vœux officiels pour devenir une religieuse. Elle a travaillé avec des congrégations religieuses, mais elle ne l'a pas été elle-même. Elle s'intéresse à la Nouvelle-France depuis qu'un cousin, justement, lui a parlé des hospitalières de Dieppe et des Ursulines qui s'étaient établies à Québec en 1639 et qui avaient fondé l'Hôtel-Dieu de Québec. Et un peu après, elle entend parler de ce groupe de religieux et de laïcs en France qui a mis sur pied une organisation. C'est une grosse époque de ferveur religieuse en France à l'époque. Et on forme cette société qu'on appelle plus généralement la Société Notre-Dame de Montréal et les Montréalistes. Mais le vrai nom est la Société Notre-Dame de Montréal pour l'évangélisation des sauvages de la Nouvelle-France. Il faut se replacer à l'époque. Là. Ils souhaitent créer une colonie missionnaire pour convertir les Amérindiens. Mais j'appelle ça, moi, le petit côté hippie catholique. C'est dans le sens où ils rêvent que tout le monde sur l'île de Montréal va vivre ensemble, travailler ensemble.
Oui, autant Amérindiens que les Français qui venaient coloniser ici, que tout le monde soit dans l'harmonie et dans la prière commune aussi.
Exactement. Autrement dit, ça leur semble naturel. S'ils travaillent avec nous, les Amérindiens vont naturellement se convertir.
Oui.
Jeanne Mance a sa bienfaitrice. Elle reçoit de l'argent d'une riche parisienne qui s'appelle Madame de Bullion, qui est devenue veuve à 18... non, je la mélange avec Madame d'Aiguillon, qui a payé Québec, l'Hôtel Dieu de Québec. Madame de Bullion est une riche parisienne qui veut faire comme Madame d'Aiguillon, qui a financé l'Hôtel Dieu de Québec, et qui lui donne donc de l'argent pour... en disant que quand tu seras là-bas, fonde un hôpital. Pour se situer, Jeanne Mance, c'est dans la mi-trentaine.
Oui. Donc, et pour se situer, l'Hôtel Dieu de Québec était déjà fondé à ce moment-là.
Exactement.
OK. Et là, on souhaite le faire pour Montréal, qui a été fondé après Québec.
Voilà. Je vais parler un peu de la Fondation de Montréal pour bien voir comment elle est cofondatrice. C'est une expédition qui part avec 3 bateaux. Celui à bord duquel il y a Maisonneuve prendra beaucoup plus de temps à traverser. C'est ce qui ferait qu'on passera l'hiver à Québec et qu'on attendra au printemps pour venir fonder Montréal. Les Montréalistes arrivent donc le 17 mai à l'endroit qu'on nomme la Pointe-à-Calière, qu'on nommera plus tard la Pointe-à-Calière. Mais c'est seulement depuis le 17 mai 2012 que Jeanne Mance est officiellement reconnue comme étant cofondatrice de Montréal. L'histoire traditionnellement reconnaissait davantage le rôle des hommes.
Ça a été long, on pourrait dire
ça. Long, mais il y a des exceptions. L'historien du 17e siècle, Delier de Casson, un sulpicien, décrivait déjà Mademoiselle Mance, comme on l'appelait parce qu'elle n'était pas mariée, et M. Maisonneuve comme cofondateur de Montréal. Mais c'était, disons, l'exception. Elle était très importante. Elle était l'économe, disait-on à l'époque. Donc, autrement dit, la trésorière. Ouais. C'est elle qui s'occupait des cordons de la bourse de cette vaste entreprise, de venir fonder une colonie en territoire franchement hostile, parce que très vite, on va s'apercevoir que les Iroquois n'aiment pas la présence des Français à cet endroit-là stratégique pour le commerce de la fourrure. Il y aura de nombreuses attaques, donc rapidement, des gens à soigner.
Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à cette époque-là ou elle était quand même assez une des seules?
Elle était une des seules. Généralement, là, on ne traversait pas en famille. Ça arrivait que les femmes arrivaient plus tard ou c'était de jeunes hommes célibataires qui venaient passer, qui s'engageaient à venir passer quelques années. Ils n'étaient même pas obligés de rester après coup. On dit que c'est dès 1643, à l'intérieur des murs, qu'elle a fondé un premier établissement, mais celui-là, il est plus officieux, si vous voulez. Et c'est en 45, là, on commence à construire en 1644, qu'en dehors de l'enceinte du fort, on commence à construire cet hôpital, l'Hôtel-Dieu. En dehors de l'enceinte du fort, ça a l'air d'une drôle d'idée à première vue, mais le lieu du fort Ville-Marie était fréquemment inondé.
Ah,
alors,
oui,
on s'installe plutôt au nord de la petite rivière Saint-Pierre, qui est aujourd'hui une petite rue qui passe à côté de Pointe-à-Calière. Et on n'a que quelques lits au début, on agrandira progressivement. Déjà en 1654, on agrandit l'hôpital. Jeanne Mancel est morte le 18 juin 1673 à 67 ans. Depuis, il y a des démarches qui ont été entreprises hein, pour qu'elle soit éventuellement un jour canonisée. Là, elle en est à la première des trois étapes puisqu'elle est reconnue comme vénérable. Et donc, fêté oui. chaque année le 18 juin.
67 ans, bien sûr, ça nous apparaît assez jeune, Christiane, mais c'était l'espérance de vie pour le moment, pour l'époque. Là.
Je pense que dans les circonstances, compte tenu déjà que ne de pas être mort
De l'attaque des Iroquois,
ouais. voilà, qui était comme le destin de la moitié des gens qui mouraient à l'époque à Montréal. C'est déjà un miracle. Elle s'était déjà blessée. Pendant quelques années, elle n'avait plus l'usage d'un bras. Là, il y a eu un soi-disant miracle à un moment donné. Donc, c'est quand même très, très bien. Mais ce qui est important, c'est que son œuvre va lui survivre.
Oui.
Et que l'histoire de l'Hôtel-Dieu, lui, se poursuit. L'administration est d'abord confiée aux Sulpiciens, brièvement, mais c'est rapidement les religieuses hospitalières de Saint-Joseph qui vont l'administrer, et ce, jusqu'en 1973. C'est la première année où il y a un directeur laïque à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. L'hôpital a brûlé à quelques reprises. Ouais. Il y a des incendies qui marquent l'histoire de Montréal, l'histoire du Montréal en 1721, en 1734. Et à chaque fois, l'hôpital est soit rasé, soit abîmé, mais rénové. Et il y a marqué par l'histoire des épidémies aussi, des
oui.
immigrants qui arrivent. Une grande épidémie de choléra en 1832, celle qui amènera d'ailleurs la construction de l'île de Quarantaine à Grosse-Île, l'arrivée des Irlandais dans les années 1840
avec
le typhus.
On voit 6 % de la population montréalaise qui est décimée par ces épidémies. C'est énorme parce que la population à cette époque n'était pas comme maintenant. Là.
Non, c'est dû à différents facteurs. Les conditions hygiéniques ne sont pas les mêmes. L'épidémie de choléra de 1832 est celui qui fera qu'on transformera la petite rivière Saint-Pierre en égout parce que jusque-là, on y jetait les déchets à ciel ouvert. Puis souvent, si vous habitiez un peu en aval de ça, c'était peut-être votre source d'eau. Le lait n'est pas pasteurisé et évidemment, il n'y a pas de vaccin. Alors, c'est ce qui fait que les épidémies font de tels ravages.
Il y a combien de personnes au 19e siècle à Montréal à peu près?
Alors là, j'avoue, vous me prenez au piège un petit peu ici, je ne sais vraiment pas.
Autour de 32 000 personnes à
peu
près.
Je l'avais écrit, je me suis
sous-estimée.
C'est moi qui me sous-estime. Je l'avais écrit, 32 000 personnes.
Oui, c'est ça.
Donc, 6 % de 32 000 personnes, c'est beaucoup.
Oui, 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 évidemment. Bon, maintenant, à quel moment on déménage l'hôpital, l'Hôtel-Dieu, en fait, à son emplacement actuel?
C'est en 1861. On déménage sur le versant du Mont-Royal, un secteur qu'on appelait le Mont-Sainte-Famille. L'hôpital y est toujours pour l'instant. En 1901, on crée l'École des infirmières, où on formera des infirmières de 1901 à 1970. Donc, déjà depuis 1850, là, il y a des accords avec des écoles de médecine. Donc, cette partie-là de la vocation d'Hôtel-Dieu commence au milieu du 19e siècle. Et c'est le destin qui s'en vient pour l'hôpital, c'est que le 1er octobre 1996, donc l'Hôtel-Dieu signe un protocole d'entente qu'il rattache au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, qui est en fait un des trois hôpitaux du CHUM.
Voilà.
Mais des hôpitaux qui sont appelés à être concentrés prochainement dans les nouveaux bâtiments du CHUM dans le Vieux-Montréal, près de l'hôpital Saint-Luc. Donc, on s'interroge en ce moment sur quel est l'avenir de ces bâtiments. Est-ce qu'on devrait le céder au privé et y aménager des condos? Est-ce qu'il faudrait plutôt faire des bureaux ou des logements sociaux? Qui s'occupera de ça, Montréal, Québec? Bon, ce matin, il y a eu une annonce, mais elle ne concerne pas l'hôpital en tant que tel. Elle concerne les bâtiments appartenant aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph. La Ville de Montréal a annoncé ce matin qu'elle va acheter les propriétés qui seront mises en valeur. Il y aura probablement qu'éventuellement, on pourra aller se promener dans les parcs autour, tout ça. Mais il n'y a que la crypte qui abrite les restes de Jeanne Mance, qui restera propriété des sœurs. Ceci dit, on parle d'un ordre religieux. La transaction se doit donc d'être approuvée par le Vatican.
Ah, voilà. Il faut se rendre jusqu'à Rome pour avoir l'approbation. En terminant, Christiane, Jeanne Mance laisse tout de même un héritage assez important au Québec, à Montréal, mais partout au Québec.
Oui, il y a de nombreuses traces. Depuis 1929, il y a une grande statue qui la représente près de l'hôpital L'Hôtel-Dieu en ce moment, qui est une œuvre du sculpteur Philippe Hébert. On a donné son nom à une école à Montréal, à une rue, à un parc, à une circonscription électorale. Elle a aussi donné son nom à une école à Drummondville. Depuis 1976, en 1976, on a donné son nom à l'édifice du ministère de la Santé. À Ottawa, en France. Il y a des lycées qui portent son nom dans sa région natale. Et bien entendu, si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez aller visiter ce musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu à Montréal, qui sera acheté par la Ville de Montréal, mais qu'on pourra sans doute continuer à visiter pour en apprendre plus long sur l'histoire de Jeanne Mance.
Oui, il y a toujours la rue qui, bien sûr, nous fait penser à elle. J'ai souvent pensé que Jeanne Mance était un prénom. Et c'est drôle de dire que Mance était son nom de famille, mais ça m'aura appris ça et bien d'autres choses grâce à vous, Christiane Campagna. Merci beaucoup pour cette chronique Histoire et grand nom de la médecine.
Ça fait plaisir.